Le débat du jour. Adrien Delgrange.
19h30 à Paris. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous où vous soyez sur la planète. Bienvenue.
RFI.
Les habits que nous portons, d'où viennent-ils ? Pour qui ont-ils été fabriqués ? Vont-ils durer longtemps ? Ce soir, nous nous penchons sur l'industrie du textile. Aujourd'hui, c'est l'un des secteurs qui a un impact parmi les plus négatifs en matière sociale et environnementale. Un chiffre, pour produire un kilo de coton, il faut 10 000 litres d'eau, selon l'UNESCO. Ainsi, le secteur du textile est le troisième, le plus gros consommateur d'eau dans le monde, après la culture de blé et de riz. À l'heure des défis climatiques pour notre planète et donc pour nous tous, c'est tout un secteur qui doit se réinventer ou qui a d'ailleurs commencé déjà à le faire. La mode est-elle verte ? C'est le débat du jour.
RFI.
Avec trois invités en studio. Julia Faure, tout d'abord, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Co-fondatrice de la marque Loom, présidente de l'association en mode climat. En face de vous, Chloé Cohen, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, créatrice du podcast Nouveau Modèle. Et puis nous accueillons également Marc Abélez, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et co-auteur d'un livre qui sort demain, Régénération, quelle mode pour le monde d'après, aux éditions de l'Aube. Un anglicisme, une expression pour commencer cette émission, la fast fashion, définition qui désigne une tendance très répandue dans l'industrie de la mode, reposant sur le renouvellement ultra rapide des collections. Julia Faure, pour bien comprendre, vous êtes aux antipodes de la fast fashion avec votre marque Loom.
Oui, parce qu'on peut dire que la fast fashion, elle a deux caractéristiques. Elle renouvelle en permanence ses collections afin d'attiser notre désir, alors que nous, on a à investir permanent. Et elle produit dans des pays qui sont moins-disant socialement et écologiquement, pour obtenir des bas prix, alors que nous, nous produisons exclusivement dans des pays où, pour le dire facilement, on enverrait nos enfants en colo.
Et en quelques mots, zéro collection, zéro offre promotionnelle, zéro solde, ça va aussi dans ce sens-là.
Oui, zéro pub. Et notre énergie, au lieu de la mettre dans la recherche de nouveaux designs ou dans la publicité, on la consacre à faire en sorte que c'est des vêtements qu'on gardera longtemps.
Et pour illustrer cette tendance, Chloé Cohen, voici l'introduction de votre podcast Nouveau Modèle.
Everyone has to do si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. In order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps.
84% de coton de la Chine, elles viennent de la région Ouïghour.
Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements.
La fast fashion, c'est un vieux nugget pourri.
C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain.
There's another way of living on this planet. Change your mind, you guys.
Près de 250 épisodes, Chloé Cohen, auteur donc de ce podcast Nouveau Modèle, la fast fashion, un nugget pourri.
Oui, c'était une des invitées qui a dit ça et c'est assez vrai finalement. La fast fashion, bah, comme le disait Julia, c'est quand même une mode qui se renouvelle sans cesse, de mauvaise qualité le plus souvent. Pas durable, mais on a envie d'en acheter très régulièrement parce que les collections sont sans cesse nouvelles. Il y a des nouveaux vêtements qui apparaissent tout le temps. Alors, on parle de fast fashion, mais on pourrait parler aussi d'ultra fast fashion maintenant avec le géant chinois Shein, notamment, qui renouvelle encore plus vite ses collections. Donc, c'est le nuggets pourri, ça résume assez bien ce qu'est la fast fashion.
Et vous, en tant qu'anthropologue, Marc Abélez, dites-nous pourquoi cette consommation effrénée pour certains d'entre nous de l'habit jetable. Pourquoi a-t-il autant le vent en poupe ?
Ben, si vous voulez, je pense que voilà, on est tous un peu des consommateurs. On a tous été, je dirais, imbibés, et encore plus peut-être les générations les plus proches ont été imbibés par cette idée qu'il fallait toujours du nouveau, il fallait renouveler les choses, il fallait. Et donc, il y a une espèce de tentation permanente d'acheter. Il y a des problèmes, comme on sait, de pouvoir d'achat, on nous le dit tous les jours. Et en même temps, donc, il y a progressivement une sorte de tropisme, enfin, qui est caractéristique de la société contemporaine et qui, loin de s'être atténué, finalement, a continué à se développer et de génération en génération. Moi, déjà, quand j'étais jeune, on appelait ça la société de consommation, et on ne peut pas dire que les choses se soient arrêtées. Alors, ça correspond aussi à des intérêts bien précis, des grandes firmes et tout ça, qui évidemment surexploitent les travailleurs et qui, en plus, ont adopté des stratégies commerciales extrêmement efficientes. Si vous allez, enfin moi je ne sais pas, là je parle en tant qu'ethnographe de la société contemporaine, si je vais dans un supermarché, dans une grande surface, immédiatement je m'aperçois qu'on est allé acheter, je ne sais pas, des carottes ou des produits alimentaires, mais on va aller faire un petit tour au rayon où on va trouver pourquoi pas des chaussures, pourquoi pas tel ou tel vêtement. Et finalement, on va ressortir, et ça m'a beaucoup frappé. Je suis souvent en dehors de Paris, dans des grands supermarchés, et je m'aperçois que tous les gens sont au lieu. Je regardais les gens qui rentrent en principe, et je les entends, ils disent bon, on va acheter à manger, etc. Et je m'aperçois qu'ils repartent très souvent avec un vêtement. Ça, c'est très caractéristique aujourd'hui, et c'est ce type de vêtement effectivement qu'on va trouver.
Un chiffre, 100 milliards de vêtements produits dans le monde chaque année, qui seraient donc vendus pour la plupart tous les ans, dont la plupart ne seront portés que 3 ou 4 fois. Quel est le message que vous envoyez aux consommateurs, notamment à travers votre association En Mode Climat, mais aussi à travers votre marque Julia Fort ?
En fait, le message qu'on envoie aux consommateurs, c'est qu'on les a un peu trompés, en leur faisant croire que la responsabilité de faire bifurquer l'industrie textile, de la rendre plus éthique, reposait uniquement entre leurs mains. Ça fait 30 ans qu'on attend ça, 30 ans qu'on attend le réveil du consommateur, 30 ans qu'on nous promet que les entreprises éthiques vont remplacer les entreprises les plus délétères. Et en fait, on voit que cela n'arrive pas. Pour vous donner un exemple, Patagonia, qui est la plus grosse des marques éthiques emblématiques, qui a plus d'une trentaine d'années, fait actuellement 1 milliard de chiffre d'affaires. Alors que Shein, ce géant de l'ultra fast fashion, qui est vraiment une entreprise extrêmement néfaste à tout point de vue, fait 10 fois plus de chiffre d'affaires. Donc ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le pouvoir du consommateur pour transformer l'industrie textile n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a attendu ça, ça ne change pas en profondeur le modèle dominant. Dans ce cas, au vu des enjeux sociaux et environnementaux de notre industrie, et surtout en vue de l'urgence climatique sur laquelle nous alertent les experts du GIEC, il nous faut des lois qui obligent notre industrie à faire mieux, puisque le pouvoir du consommateur, on a testé, ça n'a pas marché.
Ça ne change pas, vous partagez ce constat, Chloé Cohen ?
Oui, je suis complètement d'accord. Et puis, je pense que c'est assez compliqué pour les consommatrices, les consommateurs. On n'a pas accès à toutes les informations. Je veux dire, les marques, notamment le géant, Chine, par exemple, ne nous donnent pas les informations des conditions de travail pour fabriquer les vêtements. Les matières, grosso modo, on sait à peu près, mais il faudrait avoir des connaissances beaucoup plus poussées, finalement. Et on ne les a pas, et c'est normal, on ne peut pas attendre des consommatrices et consommateurs d'être des professionnels de l'industrie textile et c'est pas à eux de porter tout le poids de cette responsabilité, du choix de faire changer ces géants. Je suis complètement d'accord avec Julia. Et puis il y a ce problème du pouvoir d'achat aussi. On peut pas attendre de transformer l'industrie textile en profondeur, parce qu'il faudrait tout revoir, quoi, c'est-à-dire baisser les volumes de production, moins consommer, moins produire. Donc, ouais.
Sur la question de la lenteur donc, de cette transformation de l'industrie textile, Marc Abeles, quelles sont vos lumières ?
Sur la question de la lenteur, c'est sûr qu'il y a, je dirais, une pesanteur énorme de tout le secteur le plus important de cette consommation. Et un peu paradoxalement, c'est plutôt du côté du luxe, disons, que se passe un certain nombre de prises en considération, de ces problèmes, je dirais, écologiques.
C'est arrivé tard, quand même.
Et c'est arrivé relativement tard.
Par rapport à l'histoire de toutes ces marques.
Pendant très longtemps, ça n'a pas été considéré comme un problème, entre guillemets, politique. Et je crois que c'est aussi une des questions. C'est-à-dire qu'on parle d'écologie, on parle d'écologie politique, etc. Et c'est un thème hautement politique, en fait. Et moi-même, j'en étais pas du tout conscient. Au départ, quand j'ai commencé à m'intéresser, je m'intéressais surtout au luxe. Et j'ai peu à peu réalisé, au fond, comment ça pesait justement dans ce secteur autour de la mode et tout ça. Mais en fait, les gens, dans leur quotidien, finalement, ne font pas nécessairement le lien. C'est assez compliqué à partir du moment où, effectivement, il y a des ONG, mais des ONG qui sont relativement spécialisées dans des questions et qui peuvent vous égrener des chiffres et qui vous disent que tout va mal et tout ça, c'est une chose. Mais le fait qu'il y ait un projet politique qui prennent en compte, par exemple, la question autour de la question de l'eau. C'est-à-dire, quand on parle de la question de l'eau, regardez, cet été, il y a eu la sécheresse. On a beaucoup parlé de l'eau. Mais en fait, si vous réfléchissez, on n'a pas du tout mis en rapport cette question de l'eau avec la question, justement, de ces quantités d'eau qui sont consommées, là, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est un peu cette question-là, moi, qui me semble assez, assez complexe aujourd'hui.
2500 litres d'eau pour un t-shirt, d'après une étude de l'UNESCO. Vos préconisations, Julia Faure, vous travaillez en circuit court?
On travaille au plus proche possible, l'industrie textile, c'est une industrie mondialisée, dans le sens où la plupart des matières qu'on utilise pour fabriquer en Europe, elles ne viennent pas d'Europe. C'est très anecdotique le coton qui pousse localement, donc les matières premières, généralement, elles viennent de loin, mais tout le reste de la chaîne, et il y a beaucoup d'étapes dans la chaîne, on essaye de le faire au plus proche possible. Donc la filature, la teinture, le tissage, le tricotage, l'ennoblissement, la confection, tout ça, généralement, ça a lieu entre le Portugal et la France.
Plus respectueux de l'environnement aussi en circuit court, c'est ce que vous véhiculez à travers votre podcast?
Ah bah oui, complètement. Et puis c'est vrai que dans la pollution liée à l'industrie textile, ce qui pollue énormément, c'est l'électricité qui est utilisée pour faire fonctionner les machines. Et notamment, Julia le dit très bien et le rappelle très souvent, que voilà, pour la filature, la teinture, ce genre de choses, on a besoin d'électricité. Et que dans des pays, notamment asiatiques, cette électricité dépend principalement d'énergies fossiles, comme le charbon. Et forcément, ça pollue plus que si on utilisait énergie un peu plus propre, notamment en Europe ou en France, où on fait quand même des efforts sur cet aspect-là. Et donc, évidemment qu'on polluera moins si on produit au plus proche. C'est pas tellement simplement la question du transport, c'est aussi la question de toute l'énergie utilisée sur la chaîne de fabrication du vêtement.
Vous partagez également cet avis ?
J'ajouterais en plus qu'il faut quand même se souvenir qu'il n'y a pas tellement longtemps, en Europe, il y avait des grandes industries textiles. Et que tout ça a complètement disparu, à commencer par la France. Je veux dire, il y avait des grands secteurs textiles. Il y avait... Donc, quand on dit produire près de chez soi et tout, c'était tout à fait envisageable. Et tout ça a disparu. Ça fait partie, effectivement, de ce phénomène de mondialisation qui a complètement transformé les choses. Et ce n'est pas par hasard qu'on prend seulement conscience maintenant. Mais il a fallu aussi un temps de latence pour que cette prise de conscience puisse s'effectuer.
Comment créer du coup une mode plus respectueuse de l'environnement et davantage responsable ?
En fait, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de croire qu'il suffit d'améliorer l'impact environnemental par vêtement. Finalement, qu'un vêtement pollue, c'est normal. Produire quelque chose, ça pollue. Le problème de l'industrie textile, c'est qu'elle surproduit. C'est qu'elle produit beaucoup plus que ce qu'on peut consommer. Si je donne un exemple, en France, la consommation de vêtements, elle a doublé en 30 ans. Pourtant, nos besoins n'ont pas... on ne doit pas plus s'habiller maintenant qu'il y a 30 ans. Ce doublement de la consommation de vêtements, il est directement lié à ce que vous évoquiez, c'est-à-dire les délocalisations. La délocalisation de l'industrie textile, ce qu'elle a permis de faire, c'est de faire chuter drastiquement le prix du vêtement. Donc pour un même budget, on achète deux fois plus de vêtements qu'il y a 30 ans. Donc c'est en fait le vrai problème de l'industrie textile, ce n'est pas de produire, de remplacer le coton actuel par du coton bio ou par du lin, etc. C'est très bien d'améliorer l'éco-conception des produits. Mais la chose contre laquelle on doit lutter, c'est la surproduction et la surconsommation. Et la manière de lutter contre ça, il faut lutter contre les prix dérisoires des vêtements.
Vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, je suis complètement d'accord avec ce constat. Effectivement, c'est vrai qu'on aura beau essayer de trouver des petites solutions qui sont déjà très bien. Il y a énormément de choses qui sont faites sur les matières premières. On parlait de délocalisation, mais aussi on peut dire qu'il y a une relocalisation de certaines filières, notamment le lin, le chanvre. En tout cas, en France, on essaie d'avoir à nouveau ces filières-là de A à Z. Mais finalement, si on continue de produire autant, ça n'a pas vraiment de sens, ça ne va pas régler le problème principal qui est vraiment la surproduction, ça je suis entièrement d'accord. Il faut drastiquement baisser les volumes de fabrication et donc de consommation des vêtements si on veut vraiment parler de mode responsable.
Et parler également de la qualité du textile, vous parliez de la filière textile en France et de la qualité aussi qui ont fait la renommée de toutes les marques. Qui dit qualité dit aussi qu'on l'utilisera plus longtemps.
Je pense qu'il y a une question qui est absolument essentielle, c'est la durabilité, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, on a été tellement accoutumé au jetable, en fait, on jette, on utilise 3-4 fois, etc., alors que ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est, il faut apprendre à... Et surtout, il faut avoir un désir d'un type de vêtement qui va durer longtemps et qui peut être issu d'un autre type de vêtement qui a déjà existé, qu'on retransforme, etc. Et ça, c'est tout l'enjeu actuel, c'est-à-dire changer complètement la conception du vêtement en faisant un vêtement durable. Et c'est tout à fait envisageable. C'est tout à fait. Maintenant, il y a un certain nombre de créateurs qui se sont lancés dans et qui font des choses qui esthétiquement sont appréciées en fait par les consommateurs. Les consommateurs commencent à comprendre qu'il y a une autre façon de faire. C'est-à-dire qu'il y a plus, c'est plus seulement le tape à l'œil et le changement permanent, etc. C'est une autre façon d'envisager, qui est une façon qui relève aussi d'une certaine, ce qu'on appelle aujourd'hui une sobriété, disons, qui est caractéristique.
Julia Faure.
Ouais, je voulais réagir à cette question de baisse de la qualité des vêtements. Moi, c'était une conviction que j'avais, hein, que la fast fashion faisait des vêtements de mauvaise qualité. D'ailleurs, quand j'ai créé ma marque, la promesse qu'on faisait, c'était des vêtements de meilleure qualité en termes de résistance physique. Et 5 ans après la création de ma marque, je dois me rendre à l'évidence, les vêtements de la fast fashion ne sont pas de mauvaise qualité. Les vêtements de la fast fashion ne s'usent pas plus vite que les autres. Et en fait, si on regarde les raisons pour lesquelles on se débarrasse des vêtements qui sont dans nos armoires, c'est pas tellement pour une question de baisse de la résistance physique. C'est simplement parce qu'on n'a plus de place dans nos placards. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est logique. Depuis la fast fashion, elle utilise énormément de fibres synthétiques, type polyester, et ces fibres-là, elles sont extrêmement résistantes. Donc finalement, un t-shirt 100% polyester que vous achetez chez Decathlon ou chez H&M, il va vous durer, vous pourrez le passer à vos petits-enfants. Mais le truc, c'est que il a coûté tellement peu cher que vous en débarrassez extrêmement facilement, que vous ne penserez pas à le réparer, que vous ne ferez pas attention à lui. Donc la vraie chose, la vraie durabilité qui prédit combien de temps on va garder un vêtement, c'est la durabilité émotionnelle. Est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on va en prendre soin? Est-ce qu'on l'a payé suffisamment cher pour en prendre soin? Est-ce qu'on va le faire réparer? Est-ce qu'il va encore bien nous aller? Est-ce qu'on le trouve encore beau dans 3 ans?
Donc, écoutez RFI en direct de Paris.
Le débat du jour.
Avec Julia Faure, cofondatrice de la marque Loom, présidente de l'association En Mode Climat, Chloé Cohen, journaliste, créatrice du podcast Nouveau Modèle, et Marc Abélès, notamment auteur du livre Régénération, quelle mode pour le monde d'après. Sur la pollution de tous ces vêtements, quelques chiffres, hein, d'après la fondation Hélène MacArthur, d'ici 2050, la mode aura consommé un quart du budget carbone mondial. L'industrie textile est responsable de 2 à 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'équivalent du secteur aérien. Si on disait que l'industrie textile avait pris avec un peu de retard ce virage écologique, y a-t-il des progrès qui sont faits en termes de lutte contre la pollution générée par la fabrication des vêtements, Chloé Cohen ?
Oui, il y a évidemment plein de solutions qui sont mises en place. Il y a plein de jeunes marques. Loom en est le parfait exemple. Il y a énormément de marques qui font des choses très, très bien aujourd'hui et qui essaient de lutter contre cette pollution et qui essaient aussi de réinventer un peu des business models parce qu'on parle beaucoup là d'achat de vêtements, mais il y a tous ces systèmes circulaires aussi de seconde main, de location, tout ça, d'upcycling. Enfin, tout ça font aussi partie de cette mode responsable de réparation. Finalement, on n'est pas tout le temps obligé d'acheter. On peut aussi se tourner vers des systèmes un peu différents. Il y a plein de marques et plein de nouveaux business models qui naissent sur ces aspects-là. Notamment, voilà, je pense à la réparation parce que Julia le disait juste avant, il faut qu'on réapprenne à aimer nos vêtements, à en prendre soin et voilà, de les réparer au lieu de les jeter pour les garder plus longtemps. Ça fait aussi partie de cette mode responsable et des solutions qu'on peut mettre en place.
Vous parlez de recycler les vêtements. Aujourd'hui, on voit que les grandes marques aussi s'emparent du recyclage. Ça peut être aussi l'avenir ou pas ?
Moi, je partage pas le constat de Chloé dans le sens que la situation ne s'améliore pas, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des... Enfin, c'est vrai, hein, depuis que les marques... Il y a des marques éthiques qui se développent. Oui, très bien, on est rentable, etc. Mais au global, la pollution de l'industrie textile continue à augmenter chaque année. Et le volume de vêtements produits continue à augmenter chaque année. Et c'est ça le cœur du problème. Et ce cœur du problème, il n'est pas adressé. Alors à côté de ça, on a l'impression qu'il y a des choses qui vont bien parce qu'il y a des marketings qui se développent, parce que H&M va communiquer sur le recyclage ou parce qu'on parle de nouvelles matières qui sont inventées. Mais la solution au problème de l'industrie textile, au problème écologique de l'industrie textile, c'est la sobriété. Et on ne voit pas poindre le bout du nez de la sobriété dans notre industrie.
Sur la question de la pollution, Marc Abélès.
Oui, mais je pense que c'est quand même plus complexe. C'est-à-dire que si on prend à l'échelle mondiale, il y a des zones où effectivement il y a une très très forte pollution, etc. Mais il y a des zones où effectivement on trouve progressivement des solutions, on essaye de réagir. Parce que si on part du principe que tout est foutu, on ne peut rien faire. Donc l'idée, moi ce qui me paraît intéressant, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé travailler avec Marine Serre, c'est qu'il y a des gens qui sont de cette génération, qui ont une trentaine d'années, et qui sont très impliqués, qui ont fait des études pour faire la mode, enfin, qui sont des très très bons techniciens, créateurs, etc., mais qui ont aussi cette préoccupation pour, par exemple, inventer ce qu'ils appellent donc upcycling ou surcyclage, ou c'est-à-dire prendre simplement des vieux, justement des vieux t-shirts qui n'ont pas tellement bougé et qu'on va réutiliser dans une autre combinaison avec un morceau de pull, avec un morceau de chaque chose, certaines choses étant complètement usées. Et c'est tout un travail assez complexe de mettre ça et d'en faire une création, et d'en faire une création qui sera du niveau de la haute couture. Et progressivement, parce qu'on vit finalement avec des images. Donc, dans n'importe quel milieu, finalement, on regarde ce que, à la télévision, dans les magazines, etc., on regarde ce que les gens portent ou ce que les stars portent et tout. Et progressivement, les modèles changent. C'est-à-dire qu'avant, c'était les pattes totales, alors qu'aujourd'hui, on voit des gens se promener avec effectivement des trucs qui, moi, pour des gens de mon âge, paraîtrait un peu rapiécé, bizarroïde, etc., et qui sont maintenant le nec plus ultra, vous voyez, donc c'est...
Chloé Cohen.
Oui, je pense qu'en fait, on peut faire avancer peut-être ces deux sujets en même temps, c'est-à-dire que Julia a raison, il faut vraiment adresser cette question de la sobriété et de baisse de la production, et finalement, il faut aussi trouver des solutions à côté, peut-être pour diriger les consommatrices et les consommateurs vers de meilleures façons de consommer le vêtement et vers toutes ces solutions dont on parle, peut-être en parallèle l'une de l'autre, quoi, sans forcément les opposer.
La question des déchets aussi, de tous ces vêtements qui parfois ne servent à plus rien et puis qui finissent ailleurs. Là aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur cette question, Julia Faure ?
Si, si. En fait, la question des déchets textiles, en tout cas en France et dans les pays plutôt dits du Nord, c'est l'illustration parfaite de cette surproduction. Pour vous donner une idée, en France, la moitié des vêtements qui sont mis dans les bennes de recyclage, donc qui sont prévus pour être donnés à des personnes plus dans le besoin, la moitié de ces vêtements qui sont en bon état sont envoyés dans des pays plus pauvres parce qu'on n'arrive pas à gérer ces volumes. Donc ça représente 10 millions de vêtements chaque année. Chaque semaine, pardon. La France envoie chaque semaine 10 millions de vêtements en bon état dans d'autres pays parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Il y en a beaucoup trop pour que ça alimente notre propre marché de seconde main. Et ces pays-là, comme le Ghana par exemple, ces pays, ils sont inondés par ces vêtements. Donc le Ghana est assez emblématique parce qu'il y a sur place une ONG qui s'appelle The OR Foundation et qui adresse ce problème des déchets textiles. Le Ghana, c'est 30 millions d'habitants. Chaque semaine, ils reçoivent 15 millions de vêtements neufs. Donc, ils débordent de vêtements. Et donc, leur marché intérieur déborde de nos vieux vêtements. Leur déchetterie, les endroits pour se débarrasser des déchets textiles débordent. Et donc, cet excès de vêtements que nous envoyons dans ces pays africains finissent dans leur nature, en fait. Et donc, on a, et c'est très visible, il y a des images de déchets textiles des pays du Nord sur les plages et dans la nature de ces pays-là. Et ça, c'est l'illustration ultime de la surproduction. Et on voit bien que là, ça ne sert à rien de mettre du coton bio, de mettre du polyester recyclé, etc. Ces vêtements qu'on surproduit, à la fin, ils aboutissent quelque part. Ils n'aboutissent pas chez nous parce qu'on ne veut pas avoir les poubelles, mais ils finissent par polluer la nature de ceux qui ont les moins de moyens pour les gérer.
Vous partagez cet avis, Marc Abeles ?
Je pense que la question des déchets elle est absolument fondamentale aujourd'hui. Et on peut dire, nous, les anthropologues, maintenant, on a tendance à analyser les sociétés à partir des déchets. D'ailleurs, même des archéologues reprennent et essayent d'analyser quels étaient les déchets de telle et telle société. Ben, nous, on peut le faire en ce qui concerne, justement, je dirais, la mondialisation des déchets. Et c'est exactement le type de question qui est très, très difficilement soluble et qui permet de faire une sorte de typologie aussi des hiérarchies entre sociétés telles qu'elles sont posées aujourd'hui. C'est-à-dire comment on part de quelque chose qui a été produit, consommé, etc., et qui va se retrouver dans un état de déchets mis sur le côté et qui va polluer ensuite toute la nature et l'environnement avec les conséquences que ça peut avoir. Et ça, c'est sûr qu'il y a là un sujet qui est très, très complexe. Et c'est pareil, c'est des choses qu'on vit sans en fait les régler et sans jamais en faire des questions véritablement politiques.
Le déchet, est-ce le bon mot employé ? Parce qu'on peut aussi les recycler, tous ces habits.
On peut les recycler. Après, la filière du recyclage, il faut encore pas mal la travailler parce que on est tellement inondé de vêtements que finalement, on n'arrive pas à tout traiter. Et c'est bien là le problème. Et c'est pour ça qu'on envoie une grande partie ailleurs pour se débarrasser un peu de tout ça. Non, je pense que le mot « déchet » est assez... est assez juste, en l'occurrence, pour parler de ce phénomène-là. Parce que oui, on peut en recycler une partie, effectivement. Encore faut-il savoir le faire et qu'on ait, par exemple, des vêtements avec des fibres à 100% du coton ou en tout cas à 100% d'une seule matière. Parce qu'à partir du moment où il y a des mélanges, ben, là, ça se complique et on n'a pas les technologies encore nécessaires pour, d'un point de vue industriel, recycler tous les volumes qu'on a. Donc, on voit bien qu'il va falloir travailler aussi sur l'innovation pour pouvoir recycler de façon efficace. Baisser aussi tous ces vêtements qui arrivent en masse, donc voilà, ou les réparer aussi, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure. Au lieu de s'en débarrasser, on peut essayer de leur donner une deuxième vie, de les faire durer dans le temps plutôt que de les envoyer à l'étranger, quoi.
Et parmi les solutions, Julia Faure, vous parliez de légiférer, de tenter de légiférer, alors au niveau national d'abord et puis et semer après.
Alors, au niveau national, parce que j'ai pas encore d'influence au-delà de ça et tout. Donc, au niveau national, parce que plus c'est proche, plus c'est facile, en fait, de faire passer des lois. Donc, au niveau français, par exemple, il y a plusieurs outils qui permettraient de faire ça. En ce moment, par exemple, il y a le cahier des charges de la responsabilité élargie des producteurs textiles qui est en train d'être discuté avec le ministère de la Transition écologique. Et ce cahier des charges, c'est celui qui régit, en fait, vous savez, l'écotaxe, ces petits centimes que vous payez en plus, par exemple, quand vous achetez un frigo et qui sont là pour gérer la fin de vie des produits. Et bien ça, on pourrait utiliser l'écotaxe sur les produits textiles et y appliquer dessus le principe de pollueur-payeur. Quand on voit que c'est surtout les vêtements de la fast fashion qui deviennent facilement des déchets, qui n'ont pas d'existence sur la seconde main parce que le prix, leur prix neuf est trop bas, on pourrait faire payer plus cher l'écotaxe de ces vêtements de la fast fashion. En tout cas, c'est une des propositions que nous portons avec le collectif En Mode Climat.
Marc Abélès, ça vous parle ou pas de légiférer, comme vient de nous l'expliquer Julia Faure ?
Moi, je dirais que... Je ne sais pas, c'est par expérience, j'ai le sentiment quand même que légiférer, c'est très gentil, mais ce n'est pas non plus complètement là-dedans que ça se passe. C'est-à-dire que ça se passe dans la manière dont chacun, je dirais dans l'imaginaire collectif, c'est là que ça va jouer. C'est-à-dire que s'il y a une transformation, c'est là-dessus qu'on essaye de tabler, justement, avec ce genre de... C'est le sujet un peu de ce livre avec Marine Serre, c'est qu'on essaye de réfléchir sur comment faire avancer, comment faire évoluer l'imaginaire collectif qui est tellement polarisé, disons, par certaines formes de consommation. Je pense que si on n'arrive pas à sortir de là, et là, ça dépasse complètement un pays en particulier, mais en même temps, c'est plus une question presque générationnelle que plutôt qu'une question, je dirais, géographique. C'est une question générationnelle. Et c'est en faisant bouger, en offrant de nouveaux modèles, en offrant de nouveaux exemples, qu'on peut peut-être arriver à changer les choses plutôt que par la législation. Enfin, ça me paraît...
Chloé Cohen.
Après, je pense qu'il y a quand même un véritable problème. On se rend compte que faire fabriquer des vêtements loin, dans des pays où il y a peu de régulation, dans des conditions assez catastrophiques pour les travailleuses et les travailleurs, avec des matières issues des énergies fossiles comme le polyester, ça coûte moins cher aux marques que de faire fabriquer au plus proche, avec des matières un peu plus respectueuses de l'environnement. Donc on voit bien qu'il y a un véritable problème. Et là, je pense que les lois ont aussi leur rôle à jouer pour essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça, ou en tout cas essayer d'encourager une fabrication un peu plus socialement, écologiquement responsable et taper sur les doigts un petit peu de cette fast fashion et cette ultra fast fashion qui continue à surproduire. Si on ne l'arrête pas, ça va être un peu compliqué, quoi, je pense.
Et ce sera le mot de la fin de ce débat en direct de Radio France Internationale, ici basée à Paris. La coordination a été signée aujourd'hui Florence Pons, rédaction en chef Patrick Adam, documentation Gérard Perrault, mise en onde Jean-Philippe Thury. Merci donc à nos trois invités, Julia Faure, cofondatrice de la marque Loom, présidente de l'association En Mode Climat, Chloé Cohen, journaliste, créatrice du podcast Nouveau Modèle, et puis Marc Abélès, anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et co-auteur du livre « Régénération, quelle mode pour le monde d'après » aux éditions de l'Aube. Merci de nous avoir écoutés. Restez à l'écoute d'RFI. Dans quelques secondes, un nouveau journal international.